Retrouvez chaque samedi 10h sur Radio Sophia Altitude l'émission Justice et Paix, animée par Domi.
École, catéchisme à Sainte-Rosemère.
Oui, nous étions au catéchisme au bout le mardi.
Une émission en partenariat avec Radio Bain-Sabiel. Justice et Paix donne la parole au monde associatif, politique, social, sportif, culturel.
Je crois qu'il faut quand même que les. On puisse remettre l'agriculture aux mains des enfants.
Le sport est un vecteur de relations sociales.
Justice et paix, les problématiques sociétales avec une vision chrétienne.
Et aussi marcher aussi vers Dieu, marcher vers un idéal, marcher vers un but.
À vous qui êtes à l'écoute de cette nouvelle émission de la Commission diocésaine Justice et Paix, bonjour, Dominique Mugerin avec vous. Après avoir écouté la première partie de l'émission sur la Caraïbe et notamment sur la place de la Guadeloupe dans la Caraïbe, nous allons aujourd'hui continuer avec la deuxième partie. Je rappelle que cette émission a été enregistrée lors de la formation trimestrielle de la Commission diocésaine Justice et Paix avec les délégués des paroisses, des mouvements et de tous les chrétiens qui ont bien voulu, et non chrétiens, tout chrétien et non chrétien, attention, qui ont bien voulu se joindre à nous. Nos deux invités universitaires, Fred Reynaud et Julien Mérillon, nous ont vraiment dit beaucoup de choses. Alors, en première partie, pour vous qui vous rappelez, nous avons pu écouter Fred Reynaud. Eh bien, maintenant, nous allons continuer avec Julien Mérillon. Nous allons reprendre avec lui là où nous étions arrêtés la dernière fois.
L'un des éléments importants pour bien comprendre cette géopolitique et comprendre ce qui va nous concerner, ce sont les frappes aveugles dans la mer des Caraïbes. Il n'y a pas longtemps, à Saint-Vincent, un groupe de pêcheurs saint-vinciens a reçu effectivement une frappe de la marine américaine. Tout le monde a disparu, y compris le bateau. Alors si j'en parle, c'est bien pour dire qu'on n'est pas là dans la zone de conflit. On est à Saint-Vincent. On n'est pas au Venezuela, on n'est pas au large de Cuba. On est à Saint-Vincent. Et les pêcheurs, ce sont des pêcheurs de Sainte-Lucie. Ce qui veut dire concrètement, et je vous laisse deviner, c'est que nos pêcheurs aujourd'hui peuvent à tout moment être victimes de pareilles, si vous voulez, attaques de pareil fond. Lorsque le cyclone Melissa a frappé la Jamaïque, c'était en octobre 2025, je suis allé voir un armateur, puisqu'il y a des gens qui voulaient faire des emplois, des offres de, si vous voulez, de produits médicaux, alimentaires ou autres. Et l'armateur m'a dit, comment ? Mérillon, tu crois que maintenant je vais prendre mon bateau pour l'envoyer en Jamaïque ? Avec ce qui se passe là, je ne peux pas exposer ni mon bateau, ni des matelots à cette rage, cette folie qui existe, parce qu'on tire sur tout ce qui bouge, et on peut tirer sur mon bateau. Donc, jusqu'où ça va, vous voyez, même pour des actions qui seraient des actions humanitaires, aujourd'hui, eh bien, on ne peut plus les mener en raison des difficultés ainsi constatées. L'impact de la politique américaine sur les Caraïbes, terrible. Le tourisme prend un coup, évidemment, alors même si ça se relance un petit peu ces jours-ci. La Caraïbe, qui était une zone de paix, devient une zone de conflit. On considérait que c'était une zone de paix. Et bien là, aujourd'hui, cette zone de paix est devenue une zone de conflit. Et il y a une division qui est instaurée entre les pays de la Caraïbe. En particulier, la première ministre de Trinidad et Tobago, Madame Kamla Pessesar-Bissa, s'est mise derrière Trump, les yeux fermés, et elle applaudit à tout rompre, à tout ce qui est fait par l'actuel président américain. Ce qui a entraîné, bien évidemment, des dissensions à l'intérieur de la CARICOM. Et la CARICOM est aujourd'hui affaiblie au point qu'elle demande qu'on puisse chasser la secrétaire générale Carla Barnett, qui est d'origine guyanaise, et elle demande que tous ces gens-là, on les évite. Il faut mettre des gens de Trump dans CARICOM pour que ça fonctionne, selon elle, bien. Donc, on voit qu'il y a une volonté réelle de faire en sorte qu'on puisse véritablement appliquer cette politique américaine. Et les autres pays sont contraires à des concessions. Comme je vous le disais, la Dominique, très peu de moyens de défense, et les autres petits pays, peu de moyens de défense. Vous comprenez bien qu'ils n'ont pas la possibilité de s'affronter. Et ils sont contraints à des concessions, notamment accueillir des personnes qui sont expédiées par les États-Unis. C'est le cas de la Dominique, c'est le cas pour Sainte-Lucie. Ils accueillent des immigrants que l'on chasse des États-Unis. Et ils acceptent de ne plus avoir de relations de coopération médicale avec Cuba. Ils ont pratiquement tous rompu ces coopérations médicales. Vous voyez, on est aujourd'hui dans des situations où ils sont obligés de faire un certain nombre de concessions. C'est donc le retour de ce qu'on appelle la politique du big stick. Le big stick, c'est le gros bâton. Les États-Unis ont toujours fonctionné avec ce gros bâton et aujourd'hui, on est avec cette politique du big stick. Pour pouvoir aller encore plus loin, Donald Trump essaie de rassembler tous les pays qui seraient un peu dans son obédience. Et c'est ainsi qu'il a créé le bouclier des Amériques, officiellement pour lutter contre le narcotrafic. Mais on sait très bien que c'est un appareillage politique avec Trinidad, avec l'Argentine, avec tous les chefs d'État Costa Rica, qui, si vous voulez, applaudissent à tout rompre à ce qu'il va faire. Et donc, c'est fameux bouclier des Amériques qui est l'actualité. Est-ce que tout ça se fait sans réponse? La première réponse, elle vient au Venezuela. Il y a aujourd'hui une mobilisation populaire assez forte de la population vénézuélienne qui demande le retour de Nicolas Maduro, qui demande que l'indépendance du pays soit respectée. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Il y a des réactions aux quatre coins du monde aujourd'hui. Et notamment depuis l'intervention en Iran, protestation augmente. Mais c'est surtout aux États-Unis qu'il est intéressant de voir ce qui se passe. Et je crois que, si vous voulez, le changement, quand changement il y aura, il interviendra d'abord et en premier lieu aux États-Unis même. Et aux États-Unis, d'abord, il y a des manifestations régulières qui sont de plus en plus nombreuses et qui se font régulièrement actuellement pour protester contre la politique d'intervention. Il y a des députés d'origine caribéenne, jamaïcains, haïtiens ou autres, qui prennent position. Mais il y a surtout la réactivation du Black Panther Party. Ce que vous voyez là, vous savez, le Black Panther Party qui a été ce parti qui est d'autodéfense des Noirs au moment de la lutte pour les droits civiques, et qui, comme vous le voyez, sont armés et qui n'hésitent pas, s'il le faut, à affronter, qu'il faut affronter, ils se sont remis en marche par rapport à la politique actuelle des États-Unis et notamment pour protester contre le fait que, il y a une véritable dérive autocratique. Il y a aussi et surtout la lettre ouverte d'un certain nombre de personnalités. Et le dernier mouvement qui est apparu, c'est ce qu'on appelle le mouvement « No King », pas de roi. On ne veut pas de roi. C'est ce mouvement qui aujourd'hui, vous voyez l'affiche là, les dernières manifestations, « No King in America », pas de roi en Amérique, qui aujourd'hui sont des mouvements extrêmement importants. Mais, et ça c'est intéressant, c'est que le clan qui a porté au pouvoir Donald Trump, qu'on appelle les MAGA, Make America Great Again, faire de l'Amérique grande à nouveau, ce clan est en train de se fissurer. Il y a d'abord les affaires Epstein, Donald Trump et sa femme ne sont pas très clairs dans cette affaire-là. Il y a les crises, la crise économique qui frappe l'Amérique, parce que les prix augmentent, c'est parce qu'il avait promis. Et bien évidemment, la guerre, parce que l'un des thèmes de sa campagne, c'est sortir des conflits, ne pas rentrer dans la guerre. Donc, il y a tout ce mouvement aujourd'hui qui se développe aux États-Unis. Alors, récemment, un artiste portoricain qui s'appelle Bad Bunny, qui était au Super Bowl et qui a défié Donald Trump devant 70 millions de téléspectateurs, où il n'a pas hésité, d'une part, à ne parler qu'espagnol. Mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Mais plus de 40% de la population américaine parle espagnol. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il a valorisé l'identité caribéenne. Et ça, c'est extrêmement important. Bad Bunny a valorisé par Porto Rico, parce qu'il est d'origine portoricaine, cette identité caribéenne en montrant comment aujourd'hui elle était mise à mal par la politique de Donald Trump. Alors en Guadeloupe, est-ce qu'on est concerné? Nous sommes concernés. Et je vous ai mis là, qui est une carte officielle de la zone de conflit. Regardez bien comment elle passe. La zone qui est contrôlée par la marine américaine, la Guadeloupe est ici, exactement. Ça veut dire concrètement qu'on est à la limite, on est à la frontière. On est à la frontière. Ce qui s'est passé ici, à Saint-Vincent, qui se situe là. Les pêcheurs étaient sortis de Sainte-Lucie, ils sont arrivés donc à Saint-Vincent qui était là. Et donc, les frappes qui sont parties de cette zone ont coulé le bateau qui se trouvait là. Donc, c'est vous dire comment on est aujourd'hui dans une situation qui est relativement précaire par notre situation. D'autre part, il y a des précédents qui existent. Et là, je vous ai sorti un document. Beaucoup de gens ne l'ont pas, ce document. C'est un journal, l'Action en Guadeloupe, du 24 janvier 1924. Et là, dans cet article-là, pardon, ici, lisez bien, il nous est revenu de sources certaines que le gouvernement américain a demandé à la France la cession de l'archipel des Saintes. Eh bien, nous aimons à penser que le gouvernement de la République française fera aux Yankees une réponse conforme aux désirs des Guadeloupéens. À Cuba, à Saint-Thomas, aux Philippines, à Saint-Domingue, partout où flotte le drapeau étoilé, il y a révolution, atrocité, meurtre et misère. Il n'est pas dit que les Guadeloupéens seront les nouveaux esclaves de ce peuple. 1924. Donc, il y a eu cette volonté claire et manifeste. Et ça, 2026, 100 ans, 102 ans plus tard, sous la plume de Claude Angéli. Alors, c'est pas n'importe qui, c'est le directeur du Canard enchaîné. Et on peut lire, au Quai d'Orsay et au sein de l'état-major, la liste des points où Trump voudrait installer quelques bases à défaut, les annexer et de les faire entrer dans son giron, comporte la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Ça laisse sans voix quelquefois. Quand on voit tout cela, on se dit, mais attention, est-ce qu'on sera protégé? Alors, j'ai fait cette intervention devant des lycéens. C'était au lycée des droits de l'homme, où le professeur m'avait demandé de venir pour présenter un peu les problématiques de la région Caraïbe. La dernière question qui m'a été posée par un lycéen est la suivante. Monsieur, si Donald Trump décide de prendre la Guadeloupe, que va faire la France? Je lui ai dit, elle fera exactement ce qu'elle a fait lorsqu'on a pris Maduro. Elle fera exactement ce qu'elle a fait quand elle va rentrer à Cuba. Aujourd'hui, elle n'a pas les moyens de se mesurer à Donald Trump. Il faut être clair. Elle n'a pas les moyens de se mesurer à Donald Trump. Alors, je ne crois pas qu'on en arrivera jusque-là. Mais quand même, je dis que cela doit nous amener, d'une part, à une réflexion. Et ne pas dire que c'est affaire ailleurs, c'est ailleurs, c'est nous. Nous sommes là-dedans. On est directement concernés par ça. Ça, c'est la première chose qui me paraît importante. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que trop souvent on a tendance à dire « Ah ouais, bon, nous, comme de toute façon, on est européens, blablabla. » Non, on ne fera jamais mentir deux choses, l'histoire et la géographie. On est caribéens et on le restera, quoi qu'il en soit, à moins que vous puissiez trouver un bateau qui prend la Guadeloupe, qui la mette à bord et qui l'amène dans la Manche. Mais en dehors de cette possibilité-là, on restera dans la Caraïbe. Donc aujourd'hui, il faut apprendre à avoir ce regard qui est lié à notre environnement. On est dedans, on n'est pas dedans par hasard, on est dedans parce que historiquement, géographiquement, la morphologie de la planète fait que bon, on est dans cette zone-là et on est dans cette zone de conflit aujourd'hui et il faut en avoir conscience. Et c'est pourquoi la question, d'une part, de l'information sur ce qui se passe autour de nous. La question de la solidarité caribéenne est une question essentielle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. L'île Alves, cette île qui se trouve à 205 km de la Guadeloupe. Vous la voyez là? Et ça, c'est un peu les oiseaux qui sont dessus, etc. Faisait partie du territoire de la Guadeloupe jusqu'à 1980. Qu'est-ce qui se passe en 1980? Les États-Unis demandent à la France de remettre l'île Aves, de mettre l'île Aves à la disposition du Venezuela. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, le gouvernement vénézuélien était un gouvernement qui était très proche des Amériques. Et donc, l'idée c'était d'y installer un certain nombre d'éléments, normalement des radars au niveau militaire. Vous savez qui était président à cette époque, 1980, Valéry Giscard d'Estaing. Il a signé le papier de cession de l'île Aves au Venezuela. Depuis, cette île ne fait plus partie de notre territoire puisque beaucoup de pêcheurs y allaient. Il paraît qu'autour d'elle, il y a énormément de poissons, etc. Donc, vous dire que, pour moi, aujourd'hui, en quelque sorte, vous voyez, l'île Aves, c'est notre frontière avec le Venezuela. Et je crois que cet élément-là symbolise, à mon avis, toute la problématique. Ça veut dire que, quelquefois, il y a des intérêts qui sont bien au-delà de nos préoccupations locales et que ces intérêts, lorsqu'ils sont en jeu, on ne se préoccupe pas de nous, on ne se préoccupe pas de la Guadeloupe. Je vous remercie de votre attention.
Radio Sofaya, la Caraïbe en altitude. Sofaya, altitude.
Toujours dans l'émission de la Commission diocésaine Justice et Paix, deuxième émission sur la place de la Guadeloupe dans la Caraïbe. Nous venons d'entendre M. Julien Mérillon après avoir entendu la semaine dernière dans notre émission M. Fred Reynaud.
Vous avez entendu ces deux intervenants et la brillance de leur intervention. Maintenant, je vous les livre. Posez-leur toutes les questions que vous voulez. Intervenez. Ils vont répondre. Oui, madame. Oui.
En fait, il y a plusieurs trucs qui me sont venus. Hein. J'ai lu le discours de Trump concernant Cuba. On pourrait avoir les mêmes termes pour le viol d'une femme et le viol d'une vierge même. Le côté des viols de femmes, c'est-à-dire les conquêtes, quelle que soit la guerre, etc., le viol des femmes est une manière en fait, de s'approprier, d'affaiblir le peuple, etc. Donc c'était très intéressant, effectivement, le côté géopolitique, mais où c'est fait par des humains. C'est-à-dire avec leur mental, leur personnalité, et notamment où on voit la perversion. Par exemple, par rapport au code noir, l'indemnisation des bourreaux, c'est vraiment la marque de la perversion, ou de détourner, de contourner et de faire passer la victime pour l'agresseur. Enfin, on est vraiment au nœud de la perversion. La première ministre de la Trinidad hein, qui collabore avec Trump, c'est ça ? C'est une femme. C'est une femme. Comment finalement une femme peut, tout en étant victime, adhérer à ça. Alors, une question, pourquoi ils voulaient les saintes ? En 1924, pourquoi les États-Unis voulaient les saintes ?
Il faut inverser la question, pourquoi ne les ont-elles pas prises alors que, bon, ils avaient déjà pris les îles Vierges, ils avaient l'intention de prendre Saint-Barthes, ils avaient l'intention, après la guerre notamment, rappelons-nous le contexte, hein. 1924, la Première Guerre mondiale s'est achevée, les États-Unis commencent à si vous voulez étendre un peu plus leur influence, l'achat des îles Vierges, c'est 1917, autrement 17 ans auparavant. L'installation sur Porto Rico, c'est 1998, mais qui prend forme véritablement au début des années 1900. Donc, c'est l'époque où véritablement ils essaient d'avoir le maximum de pions. Alors, l'archipel des Sept, parce que bon, ben. Je pense qu'il est suffisamment connu et quelque part, ils y voient la possibilité d'installer une forme de marinade qui serait sous l'égide américaine. Hein. Ça a toujours été dans leur esprit. Et je pense que, si vous voulez, globalement, par-delà les saintes, c'est peut-être la première étape vers une prise de possession un peu plus large qui s'étendrait à l'intégralité du territoire. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un psychanalyste qui disait que bon, le discours et le faciès de Trump révèlent, ou en tous les cas font ressortir un certain nombre d'éléments qui s'inscrivent dans la perversion. Ils montrent la dangerosité du personnage. Ils disent que bon, ben, de toute façon, ce n'est pas la peine d'aller le voir avec des discours rationnels. Ça ne nous perd pas. Parce qu'il n'est pas dans cette rationalité, il est ailleurs, il est dans un autre registre, et ce registre-là, bon, évidemment, alors, il y a quelque part une dimension prédatrice.
À la précision, qu'est-ce que ça va poser là ? Objectif, on ne va pas demander un procès en réhabilitation pour mon nom, hein? Mais en cas où il n'y a pas parlé assez de Roosevelt.
De ?
Roosevelt. Parce que si Monroe avait doctriné, c'est une doctrine censée, entre guillemets, de protection, à partir de 1904, avec sa rapprochée le corollaire de Roosevelt, ou qu'a passé à don mot sorti employé, à don stade de prédation. Ou Roosevelt qui a estimé que tout ça y a dans Aouya ou Kouaï, dans la Caraïbe et l'Amérique du Sud, c'est taille. Et il peut faire ça il veut quand il veut. Et actuellement, président États-Unis, l'Amérique, il y aura des trompes là, à la limite, à dans même état d'esprit là, ça. Et il est un libre de la Caraïbe, il est passé au monde. Et en quoi ça sens ça, c'est l'état d'esprit là, à partir de 1904, avec le corollaire de Roosevelt, uni, pratiquement, il a estimé ses propriétés à eux. Il peut faire ça, il veut, quand il veut.
Alors, je trouve que c'est une conférence qui est très intéressante. Heureusement qu'elle est enregistrée parce que ça crée des prises de conscience qui sont très nécessaires. Alors, je voudrais revenir un peu sur les réponses. Vous avez parlé des réponses américaines à la situation. Alors déjà, bon, ce qu'on peut espérer, c'est que ces réponses seront suffisamment fortes pour porter des fruits, parce que visiblement, il n'y a pas beaucoup de moyens de résister. Mais ce que j'ai voulu vous demander aussi, est-ce que vous ne pensez pas que toutes les crises, finalement, donnent l'impression à certains moments d'une situation irrévocable? Est-ce que vous ne pensez pas que le fait, justement, que les États-Unis essaient d'imposer sa domination, de montrer qu'ils sont les plus forts, est-ce que ce n'est pas aussi la preuve qu'il y a un affaiblissement de cette centralisation du pouvoir américain? Est-ce qu'ils ne sentent pas finalement qu'ils sont en train de perdre cette hégémonie, que ce serait un peu le débat de la dernière chance? C'est la première question. Et la deuxième, je voudrais revenir un peu sur la Guadeloupe dans la Caraïbe. Comment notre, on voit la petite Guadeloupe qui est là, et pays français dans des pays anglophones qui s'organisent, qui ont quand même une certaine force, qui ont une possibilité, comment notre situation pourra aider dans notre évolution? On se rend compte que notre situation de département français, c'est à la fois un plus peut-être, mais c'est aussi un frein, parce que comment on pourra finalement échanger avec la Caraïbe quand on voit le coût de la main-d'œuvre, quand on voit tout dans les autres pays en comparaison? Donc, ce que je me demande, je ne sais pas si j'arrive à bien formuler ma question, comment notre situation pourra nous aider en tant que pays caraïbéen d'évoluer et vers un plus, d'utiliser finalement cette place caribéenne pour évoluer vers un plus, économiquement déjà, parce que je pense qu'on est beaucoup dans cette situation économique, production locale et tout, et tout en restant dans la République française, il faut le dire, dans laquelle on a envie de rester.
Pour comprendre comment les choses ont évolué, la Deuxième Guerre mondiale va jouer un rôle déterminant. En 1940, est signé ce qu'on va appeler le traité anglo-américain. Et là, les Anglais acceptent de livrer pratiquement tous les pays de la Caraïbe aux États-Unis pour qu'ils y installent des bases pour la Deuxième Guerre mondiale. Et avec le rapport d'un dénommé Tossing, l'idée est de s'approprier l'ensemble. Au point que, en 1946, le bruit court, et ça, Césaire en est conscient, un certain nombre de politiciens sont conscients qu'il y a derrière la tête des Américains l'idée que l'on puisse récupérer quasiment tous les territoires de la Caraïbe. Et Césaire a eu l'occasion de dire que la départementalisation, c'était une espèce de bouclier par rapport à cette tentative. Cette idée-là sera reprise d'ailleurs par Rosan Girard par la suite. Alors ça, c'est effectivement une véritable politique qui, à mon avis, ne s'est jamais démentie. Alors, on a parlé de 1924, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu cette volonté américaine d'avoir la mainmise. Maintenant, nous, Guadeloupéens, dans cette Caraïbe-là, comment faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter? La première réponse, elle nous est donnée par l'ancien maire de Saint-Claude, Rémi Nsouta, qui était à la conférence de Saint-Thomas, où il représentait la Guadeloupe. Et deux choses importantes. Il va dire qu'il y a une chance pour la Caraïbe, le fédéralisme. Il développe cette idée du fédéralisme, qui sera ensuite reprise par Eric Williams, qui est un universitaire trinidadien, qui sera premier ministre de Trinidad. L'idée, c'est de créer une fédération qui comporte bien évidemment des gens de cultures différentes, mais qui aurait au-dessus d'eux une structure qui leur permettrait d'agir ensemble. Et Rémi Nsouta nous dit que cette idée-là, elle n'est même pas de lui, elle est de Victor Schœlcher. C'est Schœlcher qui avait développé cette idée que la Caraïbe doit être confédérée et c'est la seule solution, c'est le seul avenir qui lui reste. Et ça, cette idée-là, elle est aujourd'hui, à mon avis, éminemment importante à prendre. Alors nous, Il y a deux choses. C'est vrai qu'on a pratiquement jusqu'aux années 70-80, au nom de la départementalisation, au nom de nos relations avec la France et l'Europe, tourné le dos à ce qui se passait dans la Caraïbe. Ça, il faut le dire. On a tourné le dos. Sauf l'école porteuse. Ah oui, ça, ça avait parti. Aller à Porto Rico, aller à Curaçao. Souvenir d'enfance, hein, j'habitais pas très loin d'ici, j'habitais de Boisvieux là. Il y avait une dame qui venait peut-être tous les deux mois. Elle arrivait avec des napperons, des choses qui étaient sorties à Porto Rico. Et dans mon esprit d'enfant à l'époque, Porto Rico c'était une espèce de paradis. Parce que comment, où c'est qu'on peut faire ces belles choses-là? Donc, si vous voulez, ce lien a été maintenu par ces personnes qui étaient informelles, qui a été maintenu aussi par un certain nombre de travailleurs qui allaient couper la canne en République dominicaine, à Cuba, etc. Ça existait jusqu'aux années 60. Alors, les politiques étaient déjà ailleurs, c'est-à-dire que bon, ils n'étaient pas dans cette problématique. Le seul endroit où je retrouve de façon systématique ce besoin de relations à Caraïbes, c'est dans le colloque sur l'assimilation qui a eu lieu le 4 mai 1958 au cinéma La Renaissance à Pointe-à-Pitre, où la plupart des intervenants disent « Mais attention, l'assimilation est en train de nous amener quelque part là où on ne sait pas où on va aller. Il faut peut-être chercher à développer les relations avec la Caraïbe. » Et des personnes aussi que l'on considère à l'époque comme dans le droit, Henri Beaujean qui deviendra maire du Moule, Renaissan, on trouve encore même des gens comme Lucien Gerville-Réache qui dit ben, « Vous racontez vos histoires, mais la Barbade est déjà capable de se suffire à elle-même. » Il dit ça dans son intervention. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a cette réaction. Mais d'une manière générale, on est absent. Les choses commencent à reprendre un peu d'intérêt lorsque, effectivement, on permet aux Guadeloupéens d'accéder avec la Martinique aussi, de rentrer dans les organisations de la Caraïbe. Mais alors, il faut s'interroger. D'abord, pour commencer, quand la Guadeloupe adhère à l'OECS, ce n'est pas la Guadeloupe en tant que telle qui adhère, c'est la France, par l'intermédiaire de la Guadeloupe. Et que lorsque M. Chalus signe, c'est parce qu'il a une délégation de signature du ministère des Affaires intérieures, ce n'est pas de sa propre initiative. Tout ça vous montre les limites que l'on a dans les relations que l'on peut avoir avec notre voisinage. Lorsque les choses étaient informelles du temps des colporteuses, du temps des bateaux qui arrivaient de Saint-Thomas, de tout ça avec des bœufs de la République dominicaine, et que ces bœufs descendaient et qu'ils disaient « Bamos, bamos !» et nous avons transformé ça en « Bamou !» Est-ce que vous saviez ça? On disait « Bamos, bamos, bamos !» et les Guadeloupéens entendaient à leur manière, ils ont dit « Bamou, non à ça !» Et on a introduit ce terme « bamou » dans notre vocabulaire. À cette époque-là, il y avait effectivement une relation informelle. Des gens partaient, ils revenaient, etc. Je connais une famille qui s'est installée à Porto Rico, la famille La Cascade. Je connais d'autres familles qui se sont installées dans d'autres endroits comme ça. Ça se faisait. C'était informel. Et là, aujourd'hui, bon, un, les contraintes administratives font que l'informel n'a plus de place. Et deuxièmement, on est inséré dans des schémas où, effectivement, le rôle de l'État est déterminant. Et par rapport à votre question aujourd'hui, eh bien, tout dépendra de nous. Tout dépend de nous. Il y a deux voies. Il y a première voie qui est celle de la coopération populaire. C'est celle que nous, nous défendons au Corica. Moi, quand j'ai besoin d'aller faire quelque chose, je ne demande rien à personne. Je pars avec mon association, je fais ce que j'ai à faire. Et je n'ai de compte à rendre. Ah, évidemment, je n'ai pas l'argent. Pour avoir l'argent, il faut être dans les credos. Mais, ou les relations, bon, j'ai pas besoin. Ça, c'est ce que j'appelle la coopération populaire. Et maintenant, il y a à travailler à ce que nos collectivités aient davantage d'amplitude dans leurs interventions. Et ça, effectivement, ben, il est important qu'on puisse aller dans ce sens. Mais s'il n'y a pas ce renforcement des compétences internationales de nos collectivités, on va tourner à voir. Je ne peux pas vous dire le nombre de coups de fil que je reçois chaque jour, parents qui me disent « Mon enfant a besoin de faire un stage dans la Caraïbe. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Alors, je règle beaucoup de cas. Mais est-ce que vous croyez que ce serait à moi de faire ça? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une institution qui soit capable de prendre en charge cela et faire que nos enfants puissent partir en stage dans la Caraïbe? Je vous donne un exemple très simple. Hein? Voilà.
Tu peux dire, mais comment peut-on avoir finalement ce renforcement de compétences quand on a l'impression d'aller plutôt en sens contraire. Dès qu'on parle renforcement des compétences, on a des personnes parfois bien placées qui crient attention, c'est indépendant, comment il y avait pour nous tout ça. Comment on pourrait y arriver? Parce que c'est...
La parole appartient à vous, le peuple.
Et la question, ma question, je ne m'ai pas répondu sur les États-Unis et leur politique de l'affaiblissement de leur.
Ah oui, alors c'est très important cette question. Vous avez vu certainement sur une des affiches que j'ai mis là, il y a un ouvrage qui s'appelle « Le déclin américain ». Et ça, aujourd'hui, la réaction des États-Unis, elle est fondamentalement déterminée par cette perception que les Américains ont de ce déclin. Quand on a l'habitude de dominer, de faire ce que l'on veut, et que du jour au lendemain, on se rend compte qu'il n'y a plus de voitures japonaises qui se vendent aux États-Unis que de voitures américaines, qu'il y a plus de, si vous voulez, soja qui vient du Brésil que de ceux qui se produisent en Amérique, qu'il y a beaucoup plus d'ordinateurs qui viennent de Chine que ceux qui se produisent, qui produisent en Amérique, évidemment, ça fait un coup. Et ça, c'est contre cela qu'on essaie de réagir. Mais à mon avis, je donne mon avis, il est trop tard. It's too late now. La tendance est déjà telle, je ne vois pas comment on va pouvoir refaire, on ne refait pas l'histoire, si vous voulez. De toute façon, les grandes puissances, elles naissent, elles ont leur apogée et elles descendent. Rome a été Rome, Rome est montée, Rome est descendue. Louis XIV a été Louis XIV, il est monté, il est descendu. Napoléon a été Napoléon, il est monté, il est descendu. C'est un cycle naturel des grandes puissances, on ne reste pas grande puissance éternelle. Tous les empires. Tous les empires, ils montent et ils descendent.
Radio Sofaya, 88.5, toujours plus proche de vous.
Pour ceux et celles qui nous rejoignent maintenant, la place de la Guadeloupe dans la Caraïbe, émission réalisée en deux parties dans la salle paroissiale de Membridge avec comme intervenants M. Fred Reynaud et M. Julien Mérillon.
Oui, bonjour à tous, je suis Mathieu Feuillard, étudiant en Sciences Po. J'ai écouté votre discours, mais quand bien même nous sommes conscients d'être dans la zone de tension, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Déjà, on est département d'outre-mer, nous sommes dépendants encore de la France, et quand bien même nous étions bien intégrés au sein de la région caribéenne, par exemple avec la CARICOM, etc., on se rend compte que même ces pays-là, qui sont beaucoup plus développés que nous, ont du mal à se faire entendre, ont du mal à se faire une place sur la scène internationale. Donc, même si on est conscient, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'au final, on a quand même une perspective d'agir et de faire que les choses puissent changer?
Je comprends parfaitement cette question, elle est pertinente. C'est vrai que, et ça je l'ai un peu signalé en disant, la vulnérabilité de la région. On est dans une zone qui est une région qui est très vulnérable par la taille des États, par les moyens dont ils disposent, ça c'est clair, et où il y a un gros bâton en permanence qui s'abat sur toutes les têtes qui essaient de sortir, d'émerger. Ça c'est la grosse difficulté. Alors que faire? Il y a une première réponse, je crois, bon, on l'attente hein, depuis, j'ai envie de dire, 1973 avec la création de la CARICOM, c'est l'intégration régionale, mais elle est difficile. Elle n'est pas simple. La preuve, il suffit de regarder comment Trinidad est en train de mettre un gros désordre à l'intérieur de la CARICOM. Donc, impossible d'avoir aujourd'hui une réponse commune, collective. On a cette difficulté-là. Ça, c'est un. Donc, mais c'est l'une des voies, c'est l'intégration régionale. Deuxièmement, moi, je pense qu'aujourd'hui, il se développe de plus en plus. Alors, ça, c'est l'actualité qui nous demande. Ce que j'appelle un axe sud-sud. Autrement dit, beaucoup de pays de la Caraïbe aujourd'hui ont vers la Chine, vers l'Inde, vers l'Afrique et ils essaient de développer des partenariats sud-sud pour échapper précisément aux logiques diaboliques qui nous viennent du Nord. Alors, cette tendance, mais elle va prendre du temps, elle ne va pas se faire en 2-3 jours, mais c'est une tendance qui est en train de se mettre en place. Au moment où je parle aujourd'hui, le premier ministre de Grenade est en visite au Ghana et au Nigeria, en train de passer des accords. il n'y a pas plus d'une semaine, si vous voulez, ils ont remplacé un certain nombre de techniciens cubains par des techniciens qui nous viennent du Ghana, du Nigeria, de ces pays-là. Donc, il y a une tentative de mettre en place ce que j'appelle l'axe sud-sud, qui, mais là encore, va prendre du temps. On est dans une période de transition, de toute évidence, clairement, si vous voulez, mais les deux réponses, c'est la coopération et l'intégration régionale, et deuxièmement, l'axe sud-sud, qui, à mon avis, est la réponse à toutes les problématiques que l'on a, mais ce n'est pas facile, je le reconnais.
Non, non, je voulais juste ajouter à ce qu'a dit Julien, qu'au-delà de cet aspect général de la relation de la Caraïbe avec d'autres espaces, nous, la question, je l'ai comprise comme ça, quelle place, quel rôle devons-nous avoir par rapport à tout ça ? Parce que nous ne sommes pas indépendants, nous sommes département conseil, comme vous l'avez dit, et quelles sont nos limites et quels sont aussi nos atouts ? Je pense sincèrement que je rejoins Julien sur l'idée qu'il faut intensifier la coopération régionale. Alors, à notre niveau, je ne parle pas d'intégration, hein, je parle de coopération régionale concernant nos territoires. Parce qu'à mon avis, on n'est pas en mesure de faire de l'intégration régionale, parce que seuls les pays indépendants font l'intégration régionale. On va faire de la coopération, la renforcer. Ça me semble fondamental qu'on sorte des idées préconçues selon lesquelles on n'est pas caribéen. Il y avait une radio, j'oublie son nom, un monsieur qui, j'oublie son nom, qui disait en permanence qu'on n'a rien à faire avec les pauvres. Nous sommes français, nous sommes européens. Mais quand je dis ça, je n'ai rien contre la France et contre l'Europe, hein, ça c'est évident. Je veux dire, il faut être objectif et réaliste. S'il y a une crise majeure en Europe, c'est la Dominique qui va nous aider. Donc on a intérêt à sortir d'une espèce de confort artificiel que nous avons et nous rapprocher de nos voisins. Je ne dis pas qu'on va dans la Caraïbe, je dis qu'on coupe avec nos voisins de la Caraïbe, parce qu'on est caribéens. Souvent, c'est comme pour l'Amérique, hein. On dit de la Caraïbe comme s'il y avait la Caraïbe et nous. Voyez. Donc je pense que c'est peut-être la première chose, c'est renforcer la coopération régionale. Et ce que fait le COICA très bien de ce point de vue, c'est qu'on essaie, et ce n'est pas facile, hein, parce qu'il y a l'aliénation, comme on l'a dit, qui joue. Mais il faut qu'on réussisse, qu'on accepte qu'on est français, européen, pour la force des choses, hein, mais on est aussi, et peut-être même avant tout, caribien pour la géographie. Ça, c'est une réalité. Donc je pense que c'est, pour nous, c'est ça, peut-être. C'est renforcer la coopération, ne pas avoir de préjugés, d'a priori, sur l'autre, notre voisin. Parce que notre voisin, c'est nous, parce qu'on est dans le même espace.
En tout cas, ils font remarquer et posent une question. Qui j'en aura pour ça? Mais M. Renaud, sorti répond moins, là, il parle moins des coopérations. Parce qu'effectivement, depuis jeudi 16, ni 3 jours, tout média qui a sauté, qui a dansé, qui a maté, parce que nous comptons que le Parlement français vote définitivement l'adhésion de la Martinique au CARICOM. Mais même là, on ne va pas parler, hein, même là, là où il y a voté ça, à la limite, même si on a le CARICOM qui a ouvert bravo pour nous venir, on est en matière d'intégration qui s'est biaisé. Parce que dans les discussions pour Texas, ça a sorti voté, on a dit définitivement, il y aura dit que l'adhésion des collectivités françaises d'Amérique ne signifie donc pas une participation au marché commun de la CARICOM, mais s'inscrit dans une démarche prospective permettant aux acteurs locaux d'analyser les dynamiques et les opportunités économiques. Il y a un paquet d'autres paroles. En tête à nous, Guadeloupéens, les peuples, nous ont dit nous allons entrer dans la CARICOM, pour nous allons entrer dans un grand marché commun de la Caraïbe. Au grand bonheur, dans le Texas, il y aura coupé des jambes au bout du wapas. Monsieur Renaud répond, moi, finalement, pas peut-être aller vers l'heure de l'intégration, mais plutôt de la coopération.
Je vais aller plus loin, Nous, membres de l'OSS, Martinique et Guadeloupe, regardez, qui signait le document OSS, c'est M. Chalus. Mais il signait à quel titre? C'est l'État français et l'OCS qui ont signé, qui ont coopéré. Et la Guadeloupe n'est une délégation de signature. Pas capable de coopération, pas capable d'intégration. L'acte de coopération entre l'OCS et la Guadeloupe, c'est un acte entre la France et l'OCS avec une délégation de signature. Autrement dit, il y a encore du boulot, quoi. C'est-à-dire, nous travaillons encore à faire.
Saint-Barthélemy a été suédois pendant un siècle. Mon père est mort à Saint-Barth et il n'est jamais allé en Suède ni en France. Et il était suédois. Parce que l'État français et le roi de Suède ont signé un accord de droit de commerce dans le port de Göteborg en Suède. Des intérêts de l'un et de l'autre, mais pas le nôtre. Ensuite, quand c'était plus rentable et qu'ils avaient des échecs dans l'île, ils voulaient s'en débarrasser. Alors il y a eu un référendum de la population. Les Suédois, même après un siècle, ils étaient encore pour nous les étrangers. Le référendum, le résultat, c'était majorité pour redevenir français. Mais pourquoi on est redevenu français? C'est parce que c'était plus rentable ni pour la France, ni pour la Suède. Nous étions parmi les îles les plus pauvres de la Caraïbe, avec Haïti. On recevait des dons de l'Amérique, de fromage, d'huile, de pois sec, etc., que les religieuses distribuaient à la sortie de l'école pour les familles suivant le nombre d'enfants.
Radio Sofaya Altitude.
La radio de votre cœur.
Quand on interroge la Guadeloupe, on interroge les Guadeloupéens, à mon avis, il y a un premier problème qui est culturel. Alors, l'école est responsable, hein, on est tous plus ou moins responsables, mais on n'est pas connecté. Alors, heureusement, depuis quelque temps, Guadeloupe Première a une émission le dimanche matin qui s'appelle Rendez-vous Caraïbes. Mais il a fallu attendre 2025 hein, pour que ça arrive. Et RCI a une émission aussi le dimanche midi qui est Information Caraïbes. Ça ne va pas au-delà de 10 minutes. Hein, encore, je suis généreux, 5 minutes d'information. Mais à mon avis, la question ne se pose pas comme ça. Comment, chaque fois que Trump lève sa jambe, tout le monde est au courant? On est au courant toute la journée. Et pourquoi tous les jours, il n'y a pas une émission par des formations qui est réservée à notre espace? Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se font. Et ce travail-là, précisément, c'est ce que nous, on a une équipe au Coureca qui est chargée de le faire. Tous les jours, les membres qui sont dans notre association sont informés de tout ce qui se passe dans la région Caraïbe parce que nous avons un certain nombre de contacts, de correspondants qui nous mettent au fond de tout cela. Mais si culturellement on n'est pas à l'heure caribéenne, ça va être compliqué d'entrer dans, si vous voulez, une démarche. Donc ça, c'est la première démarche qui est, à mon avis, au niveau de la culture, il faut formater. La deuxième chose qui est aussi importante, je crois que les politiques publiques aujourd'hui chez nous ne sont pensées qu'en fonction des modalités de financement que peut procurer l'Europe. C'est ça. Et qu'est-ce qui est réservé à la Caraïbe? C'est le programme Interreg. On a déjà pratiqué le programme Interreg. J'aime autant vous dire que c'est la croix et la bannière parce que bon, c'est compliqué ce qu'on vous demande matin, midi, soir. Mais... Donc, c'est cette difficulté concrète que l'on a. Ceci dit, et je vais conclure par là, je crois qu'il ne faut pas être pessimiste. Quand je vois ce qui a été fait dans le sport, et notamment à l'initiative de Jacques Rougard, qui a réussi à faire adhérer, j'allais dire la Ligue Guadeloupe de football, mais ça c'est du passé, elle n'existe plus, à la CONCACAF. Maintenant, est-ce que le successeur, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va mettre à la place, sera toujours à la CONCACAF? Mais ce travail qui a été fait permet aujourd'hui qu'un certain nombre de nos jeunes participent à des compétitions, on est dans les instances, etc. Il ne faut pas être pessimiste non plus quand je vois qu'au niveau médical, je prendrai un seul exemple. Il y a un projet qui s'appelle CARES-T, qui concerne la drépanocytose et qui est parti de la Guadeloupe et qui aujourd'hui eh bien, concerne aussi bien Trinidad, Cuba, la Dominique, Saint-Vincent, etc. et qui ont des réunions régulières, la présidence étant en Guadeloupe. Il ne faut pas désespérer parce que là, on a décidé qu'il fallait rationaliser les choix. Ce n'est pas la peine d'avoir 150 000 laboratoires, mais il y en a un en Guadeloupe, il y en a un en Jamaïque, il y en a un à Cuba. Donc voilà, on s'organise autour de cela. Je crois que bon, il y a des choses qui se font, il y a des initiatives, mais ça reste quand même relativement limité. Mais je ne désespère pas parce que je dis, quand je regarde ces domaines-là, le sport, la santé, la culture, ben, je dis que bon, il y a quand même, si vous voulez, un certain nombre d'avancées incontestables dans ce domaine-là.
Cette semaine, disons jeudi dernier, il y a des responsables de l'université et l'Institut Pasteur qui sont partis à Cuba pour parler de bioinformatique. un groupe de jeunes, voilà, de jeunes chercheurs. Voilà. Et ça s'est fait et les gens, personne ne le sait.
Bon, je m'appelle Lesdel. Moi, je n'ai pas de questions à poser, mais je tiens à vous féliciter de ce thème que nous avez exposé. Ce que je voudrais vous demander, si à la fin, que nous pourrions avoir vos numéros de téléphone, s'il vous plaît.
Pour revenir un peu sur le côté psychique, pour répondre un peu à la question, c'est important de voir ce qui se joue au niveau humanité. La colonisation, l'esclavage, tout ça, c'est de la perversion. C'est vraiment la jouissance de posséder l'autre. Comment les esclaves ont pu résister mentalement? Comment ils ont pu résister au fait qu'on veuille les annihiler, les anéantir psychiquement en tant qu'être humain? Comment ils ont pu résister justement à toute cette domination?
Je vais passer la parole à Albert Blanchard.
Je vous ferai un petit résumé un peu rapide de ce que j'ai fait. Je pense peut-être le prolonger par un article dans l'église en Guadeloupe. Rapidement, c'est vraiment par les sommets. La colonisation, 1635, la première croix posée à Sainte-Rose. Et puis, accompagnant les colons, il n'y avait que des religieux et des congrégations de religieux. Et ensuite, pendant l'esclavage aussi, l'organisation des baptêmes des esclaves, c'était aussi des congrégations religieuses. Il y a eu les dominicains, le père Labat, les carmes. Après la fondation du diocèse, il y a eu les congrégations des spiritains. Ils sont avec nous toujours. Pendant tout le temps de l'esclavage, il n'a jamais été possible de fonder un diocèse. Parce que les prêtres étaient aussi propriétaires d'esclaves, mais il y a des conflits continuels entre les colons et les prêtres. Et il y a des rapports assez mensongers qui étaient envoyés par le gouverneur aux responsables des colonies, parce que les prêtres, justement, menaient de la résistance par rapport à simplement l'organisation de l'Église elle-même, etc. Il y avait les obligations de la vie chrétienne, baptême et vie chrétienne, et dimanche, qu'est-ce qui se passait? C'est que les esclaves quittaient la plantation pour toute une journée, et ils venaient pour la messe, ensuite il y avait la formation, ensuite le repas, et puis dans l'après-midi, ils remontaient chez eux, et les colons n'étaient pas du tout d'accord avec ça, ils étaient en conflit avec les prêtres pour cela. Les supérieurs des congrégations ont demandé de faire des rapports réguliers sur leurs actions, leurs missions. Et nous avons là des bijoux d'organisation pastorale en temps d'esclavage qui peuvent nous servir de leçon pour aujourd'hui. C'est un certain Debien qui, dans son livre sur l'esclavage au XVIIe et XVIIIe siècle, où il y a un chapitre au niveau de la religion et où il raconte un peu tout cela. Tout ça pour vous dire que ce n'est que 2 ans après la libération de l'esclavage que les diocèses de Guadeloupe et Martinique ont été fondés. 1850. En même temps, ça révèle une existence conflictuelle. Alors, les diocèses de Guadeloupe, Martinique, Dominique, Sainte-Lucie, la plupart des petits diocèses, ils étaient au départ directement en lien avec le service du Vatican, la propaganda fidei, la diffusion de la foi. Et donc, ils n'avaient pas tellement de contact entre eux aussi. C'était l'assimilation à l'Église, mais pas tellement intégration à la région. Alors, petit à petit, il y a eu des étapes. C'est surtout le Concile Vatican II, plus récent, qui a réorganisé les choses. Et il y a eu une ouverture dans deux sens, de voisin à voisin, mais aussi de religion en religion. Et donc, des organismes sont nés, comme on appelait les conférences des évêques de région. Et au niveau de l'œcuménisme, on va voir apparaître la conférence des églises de la Caraïbe. Alors, c'est deux sigles qu'il ne faudra pas tellement confondre. Conférence épiscopale sous région de la Caraïbe. Et donc, dans la Caraïbe, quand on regarde la Caraïbe, il y a au moins une dizaine de conférences épiscopales dans la Caraïbe insulaire et continentale. Par exemple, Haïti, Saint-Domingue ont leur conférence épiscopale. Il y a 10 conférences épiscopales dans la Caraïbe. À partir des années 70, le fait que le gouvernement états-unien et l'armée états-unienne étaient très occupés au Vietnam. Alors il y a eu un mouvement, tous les organismes dont vous avez entendu parler tout à l'heure, là, c'est là qu'ils sont nés. Il y avait comme un ballon d'oxygène qui est arrivé dans la région, et c'est là qu'il y a eu CARICOM, CARIFESTA, COES, les uns après les autres, et aussi la CCC. Conférence des Églises de la Caraïbe. Alors, CEC en français, Conférence des Églises de la Caraïbe, et en anglais, CCC, Caribbean Conference of Churches. Alors, à partir de ça, il y a une expérience formidable à laquelle j'ai eu l'occasion de participer parce qu'il y avait beaucoup de planning organisé. Planning de la réflexion théologique pour une théologie caribéenne. Il y a eu Youth Program, le programme de la jeunesse, CADEC, Action chrétienne pour le développement. Et alors ici, on en a eu une antenne de cadets. On ne pouvait pas appeler CADEC pour des raisons légales par rapport au système d'association française. On a dû faire une association en 1901 avec Oscar Lacroix, des membres de la JOC, du MRJC. C'était Comité chrétien pour le développement de la Guadeloupe. Et on a eu des actions de partage, d'échange et aussi des subventions mutuelles. Que Guadeloupe pouvait soutenir un groupe de marins pêcheurs d'Antigues, Trinidad pouvait soutenir un groupe, un éleveur de lapins qui démarrait un élevage à moules. Ça a bien fonctionné pendant une dizaine d'années, quelques dizaines d'années plutôt. Alors c'est le seul qui a existé, à notre connaissance, un journal régional de la Caraïbe, Caribbean Contact. C'était le nom du journal. Et il y avait des articles en anglais, en français, parfois en papiamento, et c'était le seul journal régional qui existait dans toute cette région-là. Ça a vécu pendant quelques dizaines d'années, c'était soutenu tous ces programmes par les églises mères d'Europe et d'Amérique du Nord. C'est-à-dire la plupart des églises soutenaient les groupes de base dans les régions locales. Les fonds diminuaient, c'est comme ça que le premier qui a disparu, c'est le journal. Et ensuite, tous les autres groupes aussi, et puis là aussi, le fait, la difficulté des voyages, tout cela, n'a pas facilité les choses. Et donc, ça a beaucoup périclité au niveau œcuménique et même au niveau de l'Église catholique, puisqu'il y avait beaucoup moins de liens avec les îles de la Caraïbe. Globalement, les liens entre les églises ont diminué, et puis les structures ont quand même aidé à maintenir. C'est un lien un peu obligatoire, plus ou moins bien vécu par les responsables. J'essaie d'être attentif aux petits bourgeons et aux petits gestes qui montrent que ça repart. Il y a quelque chose qui est toujours resté, c'est alentour des JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse. Il y a dans toutes les régions les JRJ, les Journées Régionales de la Jeunesse. Et donc pour nous, c'est JCJ. Journée caribéenne de la jeunesse. Alors chaque année, il y a quand même une rencontre de la jeunesse caraïbe chrétienne dans ce cadre-là. Je change d'île chaque fois. C'est un lien qui reste et qui a été maintenu. Ensuite, la conférence des évêques des Petites Antilles se rassemble régulièrement une fois par an, après Pâques. Autre petit bourgeon, c'est notre nouvel évêque. Il a pris les choses assez au sérieux par rapport à cela. Et puis, il s'est obligé de se remettre à l'anglais. Dans une rencontre ou bien dans l'ordination d'un évêque, il nous en fait part après. Il y a des remontées, du moins, qui arrivent dans le presbytérium et dans l'église locale. Alors, ce sont des petits signes qui montrent que ça bourgeonne, ça rebourgeonne et que ça peut repartir. Il y a aussi l'initiative de laïcs avec un prêtre qui avait accompagné la formation des Guadeloupéens. Comme les Guadeloupéens font beaucoup de croisières, ce n'était pas une mauvaise chose pour nous parce que ça a fait beaucoup de Guadeloupéens découvrir les îles de la Caraïbe. Ça fait partie du travail d'intégration dont nous parlions tout à l'heure. Alors il y a des chrétiens ils ont organisé un programme en s'inscrivant sur une croisière précise. À chaque étape, dans une île de la Caraïbe, ils ne sont pas simplement allés photographier les sites habituels comme tout le monde. Ils ont pris rendez-vous, ils ont averti à l'avance la communauté locale, ils leur ont rendu visite, ils ont célébré avec eux pendant leur étape, etc. Ou prendre contact avec les groupes de chrétiens qui existaient, ou responsables de l'église, dans chacune des îles où ils sont allés, ils ont fait de leur croisière, moitié pèlerinage. Avec des temps de prière communes avec la population de l'île qu'ils visitent. Alors je pense que ce sont des initiatives que l'Esprit est à l'œuvre. Les conférences des évêques de la Caraïbe font partie du CELAM, Conférence épiscopale latino-américaine. Et c'est Conférence épiscopale latino-américaine et de la Caraïbe. Et donc les documents qui ont été publiés à Medellín, à Puebla, à Aparecida, tous les 10 ans, là, depuis quelque temps, ces documents-là ont été signés par des évêques caribéens délégués dans cette conférence également. Alors, ce sont des liens institutionnels qui sont importants et qui permettent beaucoup de choses. Et on m'a même raconté qu'une fois, les premiers touristes guadeloupéens qui étaient en croisière voyaient les touristes du Nord envoyer des pièces dans l'eau pour faire plonger les petits Luciens pour aller plonger, ramasser la pièce, et puis que, tiens, c'est intéressant, et puis ils sont mis à faire la même chose. Et puis il y en avait un dans le groupe qui avait quand même une certaine dignité. Il dit, j'en dis pas plus. Ne pas les montrer du doigt, mais nous devons leur tendre la main, et de plus en plus. Et quant à nous-mêmes, chrétiens de la Guadeloupe, nous croyons que quoi qu'il arrive, malgré ceci, malgré cela, malgré tout, on pourrait ajouter aujourd'hui, malgré Trump, nous croyons que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans notre région, comme partout ailleurs dans le monde, pour continuer et conduire les citoyens et les peuples vers la réconciliation et la paix. Amen.
Nous arrivons au terme de cet échange qui, je crois, a été bénéfique, qui nous a appris beaucoup de choses, qui nous a fait partager des sensibilités, d'approfondir notre prise de conscience, parce que, comme nous disaient les deux intervenants, c'est la prise de conscience que nous sommes caribéens avant tout. Et ça, il faut comprendre cela, même si nous avons des relations avec l'Europe, mais nous sommes enracinés dans la Caraïbe, et aujourd'hui, j'aime utiliser un terme, nous désaliéner, bien comprendre que la terre de Guadeloupe, comme prenait l'exemple Julien Mérillon, sauf à prendre un bateau et la porter dans la Manche, la terre de Guadeloupe, elle sera toujours dans la Caraïbe. Et ça, il faut bien l'entendre. Et donc, prenant conscience de cela, et j'ai cru comprendre qu'il y avait un étudiant en sciences politiques ici, c'est cela, j'ai cru comprendre ça. L'important, c'est que nous puissions transmettre à la jeunesse de Guadeloupe, qu'elle comprenne que c'est vrai, elle va faire des études dans l'Hexagone ou à l'étranger, mais qu'elle est enracinée dans ce pays, et qu'elle est enracinée dans la Caraïbe. Et que nous, qui sommes adultes, nous qui avons reçu et que nous comprenons aujourd'hui l'importance de notre situation dans la Caraïbe, l'importance aussi de la coopération, et le terme est très précis avec Fred Reynaud, non pas de l'intégration, mais de la coopération nécessaire. Nous devons, et je terminerai par ce que disait le père Blanchard, ne pas pointer du doigt nos frères caribéens, mais au contraire, travailler avec eux, faire que nous puissions coopérer avec eux. Ça veut dire que lorsqu'on coopère, c'est qu'on regarde l'autre comme étant un soi-même. C'est ça, la coopération.
Nous allons nous quitter ici pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une toute autre émission, en espérant que vous avez aimé comme nous, lors de la diffusion de cette émission en deux parties, que vous avez pu, comme nous-mêmes, apprendre beaucoup de choses. Kimberet Pamoli, force vous autres.
Retrouvez chaque samedi 10h sur Radio Sofaya Altitude, l'émission Justice et Paix, animée par Domi.
École, catéchisme, à Saint-Rosemène.
Oui, nous étions au catéchisme au bout, le mardi.
Une émission en partenariat avec Radio Bensabiel. Justice et Paix donne la parole au monde associatif, politique, social, sportif, culturel.
Je crois qu'il faut quand même que on puisse remettre l'agriculture aux mains des enfants.
Le sport est un vecteur de relations sociales.
Justice et Paix, les problématiques sociétales avec une vision chrétienne.
Mais aussi marcher vers Dieu, marcher vers un idéal, marcher, c'est un but.